La prise en charge masso-kinésithérapique et orthopédique de l'enfant polyhandicapé. En 1955, le professeur Tardieu définissait l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, comme une atteinte motrice avec intelligence conservée. Cette atteinte étant accidentelle dans les premières années de vie, non génétique et non évolutive au niveau des lésions cérébrales. Les recherches de l'époque s'orientaient vers l'étude des différents types de raideurs pour aboutir à une meilleure codification de l'examen neurologique et par là même à une thérapeutique mieux adaptée. On devait repenser la thérapeutique par l'observation. La plupart du temps, ces enfants étaient vus tardivement. Et ce n'est qu'en 1966 que les prises en charge précoces débutent. Article signé Reynald Laurenceau et l'AUREN CCDIOT. Ma sœur kinésithérapeute en collaboration avec Edith Cornette, CORNE2TE, orthoprothésiste. Donc, une actualité du jeudi 19 mars 2009. Chiffre clé, 8 enfants polyhandicapés sur 10 vivant en institution sont ou seront appareillés avant l'âge adulte. Étude réalisée sur l'observation d'une moyenne de 25 enfants âgés de 3 à 18 ans sur une durée de 10 années. En 1973, apparaissent les premiers centres pour IMOC, infirmité motrice d'origine cérébrale. Il s'agit d'enfants présentant une atteinte motrice par lésion cérébrale avec déficience intellectuelle, l'origine étant accidentelle ou génétique, connue ou soupçonnée. Et c'est en 1986 qu'apparaît le terme de polyhandicap. C'est un enfant atteint d'un handicap grave à expression multiple associant déficience mentale sévère et profonde avec restriction extrême de l'autonomie, de perception, de relation et d'expression. À la suite de ces observations, après l'enfant IMC qui aura d'une certaine façon servi de base à cette évaluation plus fine du handicap neurologique, on a pu différencier les différents degrés de handicap. IMOC, déficience motrice plus déficience intellectuelle, autonomie fonctionnelle restreinte, commissialité, trois croix, troubles respiratoires et de déglutition. Ces enfants sont moins socialisés que les IMC, avec des troubles importants de repères dans le temps et l'espace. Scolarisation parfois possible, mais limitée dans les acquisitions. Polyhandicapé. Autonomie motrice très limitée, voire inexistante. Problème d'état général, trois croix, urinaire, digestif, point de suspension. Commissialité, trois croix. Troubles respiratoires et de déglutition, trois croix. Langage pauvre, voire inexistant. Scolarisation impossible. Les polyhandicapés ont très souvent un syndrome frontal se caractérisant, entre autres, par une lésion corticale grave, majeure et une absence de langage parlé. Quelles sont les principales pathologies d'ordre kinésithérapique rencontrées chez cette population ? Pour donner une base d'étude, il s'agit d'enfants accueillis en institution dans une tranche d'âge allant de 3 à 18 ans. Le handicap a pu être découvert soit avant la naissance, à la naissance ou au cours des premiers mois après la naissance, lorsque le médecin oriente la famille vers un CAMSP, Centre d'action médico-sociale précoce. Il est possible d'étudier trois types principaux de pathologies, les pathologies d'ordre neuromotrice, les pathologies d'ordre orthopédique, les pathologies d'ordre interne. 1. Pathologie neuromotrice et troubles associés. Les troubles du tonus sont toujours présents. L'hypotonie entraîne une insuffisance de maintien postural de la tête et du tronc, provoquant une instabilité globale de l'axe corporel avec ses conséquences diverses. Malposition vertébrale et troubles de la statique du bassin et des membres inférieurs. L'hypertonie va limiter le mouvement articulaire au travers de raideurs musculaires plus ou moins importantes, évoluant peu à peu vers des rétractions difficiles à prendre en charge. Les insuffisances ou absences de réponse à diverses stimulations motrices se retrouvent chez la majorité de ces enfants. Pas de réaction parachute des membres supérieurs dans les tentatives de déséquilibre latéral ou antéro-postérieur par exemple. L'évolution neuromotrice se faisant au ralenti et de façon incomplète. Le retard de développement mental dans l'analyse et l'appréhension de l'objet va venir perturber les activités ludiques et gestuelles du polyhandicapé. L'importance de la lésion cérébrale et sa localisation sont les éléments majeurs de la pathologie neuromotrice. L'atteinte cérébrale va perturber l'évolution des différents schémas moteurs nécessaires à la statique et à la dynamique du corps. Quels sont les troubles associés perturbant cette évolution neuromotrice ? Les troubles de l'organisation motrice, l'athétose, Mouvement incoordonné de grande amplitude affectant surtout les extrémités des membres, renforcés par lors des émotions, et les dystonies, troubles de la tonicité aboutissant à des contractures musculaires involontaires et durables, fixant le corps ou les membres dans une posture anormale. Les troubles cérébelleux, à l'origine de gros problèmes d'équilibre. Les troubles de coordination motrice. Il s'agit d'un dysfonctionnement de l'organisation temporo-spatiale, des contractions musculaires intervenant dans le maintien postural nécessaire à l'organisation des mouvements. L'ataxie posturale intéresse les troubles de l'équilibre, les contractions n'étant ni insuffisantes ni excessives, mais ne s'adaptant pas assez de rapidité dans le temps. L'ataxie cinétique perturbe les mouvements volontaires plus ou moins automatiques, comme la marche et l'appréhension. Les troubles de la réception des informations proprioceptives. Le cerveau de l'enfant polyhandicapé ne peut analyser, de par la nature même de l'atteinte cérébrale, les multiples signaux en provenance des divers récepteurs, articulaires, tendineux, visuels, oreilles internes. La perception de ces informations n'étant pas correctement décryptée par le système nerveux central, ce dernier ne peut que renvoyer un ordre incomplet, parfois même incohérent, à tout l'appareil musculaire, réalisant de ce fait toute la complexité du maintien postural, tant statique que dynamique, du polyhandicapé. Les troubles sensoriels. À toutes ces difficultés motrices vont venir s'ajouter différentes atteintes sensorielles, strabisme, parfois cécité, associé au déficit d'information proprioceptive, hyper-réactivité à certains bruits ou sources lumineuses, égale facteur E, non-représentativité de l'objet au sens de qui représente à l'esprit un objet dont il prend connaissance. Rapport de cause à effet perturbé dans l'appréhension de l'objet avec à la source un retard, parfois important, de développement mental. La main, outil de la découverte au travers des jeux, outil du toucher, n'est pas ou peu opérationnel dans le sens d'un fonctionnement correct. Pouce adductus, rétraction diverse. Traitement masso-kinésithérapique et orthopédique. Petit a, les troubles du tonus, hypotonie ou hypertonie, et leurs conséquences, raideur, rétraction, seront traités manuellement dans un premier temps, puis relayés par l'appareillage dans un second temps. L'entretien du jeu articulaire et de l'élasticité musculaire passe par les techniques de mobilisation passive des principales articulations des membres inférieurs et supérieurs. Ces dernières sont parfois facilitées par certains traitements médicaux type lyorésal agissant sur la spasticité. Le travail de l'axe vertébral se fait sur table de Hubbat ou sur ballon de Klein. Cette kinésithérapie devra toujours s'orienter vers le jeu, gage d'un bon contact avec l'enfant. Pour les cas d'hypertonicité, la balnéothérapie chaude permet une certaine amélioration du jeu articulaire, mais souvent de façon provisoire. Si la mobilisation passive ne pose pas de problème particulier, il faut toutefois respecter certaines règles propres au polyhandicap. En cas d'hypotonie, bien respecter l'amplitude théorique de chaque articulation. En cas d'hypertonie, toute tentative de mobilisation forcée ne fera qu'augmenter l'hyperactivité du muscle, d'une part, et d'autre part risquera de provoquer des dégâts péri- ou intra-articulaires, notamment au niveau des zones cartilagineuses. Avoir toujours à l'esprit qu'en mobilisation passive, la notion de temps sera toujours plus efficace que la notion de force, d'où l'importance d'une prise en charge relais par les différents appareillages, verticalisateur, attelle, siège moulé, abus postural. Petit b, les troubles neuromoteurs. C'est en stimulant de façon répétée les différentes possibilités motrices de l'enfant polyhandicapé que l'on arrive parfois à obtenir une amélioration des fonctions posturales, antigravitaires et locomotrices, avec l'utilisation des différents niveaux d'évolution motrice de Monsieur Le Métayer. De Michel Le Métayer, le rééducateur va pouvoir s'adapter aux potentialités propres à chaque enfant polyhandicapé en jouant avec les divers enchaînements possibles. Les différentes étapes de cette rééducation commenceront toujours par la recherche du contrôle postural de la tête, en décubitus, en procubitus, en position assise, le tirer assis du décubitus jusqu'à la position assise. L'enfant doit décoller la tête du plan de la table, recherche du déséquilibre en position intermédiaire, antéro-postérieure et latérale. On poursuit la sollicitation du contrôle postural de la tête en amenant l'enfant jusqu'à la position assise, puis retour à la position décubitus. En procubitus, l'enfant décolle le front du plan de la table, égale zone 1 de Gesell. À 3 mois, il décolle la tête et les épaules, zone 2 de Gesell. Vers 4 mois, il décolle la tête, les épaules et la partie supérieure du tronc, égale zone 3 de Gesell, position du sphinx. Lorsque le contrôle postural de la tête est acquis, la partie supérieure du tronc doit être sollicitée. Ce travail s'effectue en procubitus en appui sur les membres supérieurs en extension. C'est la recherche d'une extension active de la tête et de la partie supérieure du tronc. Ne pas oublier l'utilisation du coussin thoracique circulaire ou semi-circulaire. Avant, avec l'enfant polyhandicapé, cette position est souvent gênée par des réflexes de succion ou parfois par une hypertonie latente des membres supérieurs, ne permettant pas une utilisation correcte des avant-bras et des coudes qui restent en flexion. La position assise, obtenue chez l'enfant normal vers 6 ou 7 mois, dans un premier temps, l'enfant que l'on amène vers cette position, membre inférieur à demi fléchi, a tendance à se tasser sur lui-même, réalisant ainsi une grande syphose du tronc au fur et à mesure du contrôle postural du tronc et des muscles péricervicaux. Il recherche son dos et sa tête et contrôle enfin la position assise et les déséquilibres. Chez le polyhandicapé, ces acquisitions posturales se font tardivement et parfois de façon incomplète. L'hypotonie et le manque d'équilibre, l'hypertonie, schème en hyperextension, vont venir perturber cette recherche. Le contrôle de la position assise vient après celui de la tête et ne pourra être efficace que si la tenue de tête est maîtrisée. La position assise est une étape capitale que l'enfant doit impérativement maîtriser pour passer au nème supérieur. Le travail de cette position se fera en progression. Il repose surtout sur l'éveil du système musculaire et proprioceptif du tronc et du bassin. En fin de prise en charge, l'enfant doit pouvoir tenir assis, libre de toute contrainte, et utiliser ses mains pour la découverte du monde qui l'entoure. Égal manipulation et jeu. Le siège moulé est l'outil qui prendra le relais en dehors de la séance de kinésithérapie. Dans ce cas, il est une aide momentanée à l'acquisition de cette position. Mais très souvent, il est l'aboutissant d'un échec postural. La position dite du lapin. L'enfant est en appui sur les membres supérieurs tendus, les membres inférieurs en flexion, assis, fesses, au talon. Le kiné pouvant corriger les pertes d'équilibre latéral, lors de la bonne tenue de cette position, on peut affiner le travail grâce à de petites poussées déséquilibrantes. La position quatre pattes. À partir de la position du lapin, on peut aboutir à celle du quatre pattes. En progression, coussin de soutien sous le thorax et coude maintenu. Si l'appui des membres supérieurs est suffisant, le maintien se fait au niveau des genoux, puis enfin sur pression du coussin thoracique. Durant cette recherche, on veillera au bon écartement des points d'appui, mains et genoux, afin d'avoir un polygone de sustentation optimum. La position à genoux dressés. On tient l'enfant par les cuisses en le stimulant pour qu'il arrive à genoux dressés. Les membres supérieurs seront tenus par une aide jusqu'à un contrôle postural suffisant. On veillera toujours au bon écartement des genoux pour assurer un bon polygone d'appui. Le passage à la position debout peut se faire en passant par la position du chevalier servant, mais bien souvent, l'enfant polyhandicapé ne peut utiliser cette position pour se mettre debout. La position debout est capitale, même si l'enfant n'est pas prêt à marcher. C'est la verticalisation qui va permettre, par l'intermédiaire des forces d'appui, la confection de la cavité cotyloïde et l'inclinaison correcte du col fémoral. La mise en charge se fera membres inférieurs en abduction, afin de bénéficier de l'action coaptatrice de la musculature, contribuant ainsi au modelage de la cavité cotyloïde. Chez l'enfant polyhandicapé, elle peut se faire sur une table de verticalisation à inclinaison variable ou sur un appareil moulé type Beaufort. Sur le plan technique, il nous a fallu modifier le système des repose-pieds d'origine de la table de verticalisation afin de permettre une mise en abduction suffisante des hanches. Un système à glissière a été réalisé par nous-mêmes afin d'obtenir une possibilité de réglage de l'écartement des pieds, le tout se fixant sur les repose-pieds d'origine. Le temps de verticalisation doit être suffisamment long, de l'ordre d'une heure le matin et une heure l'après-midi pour être efficace. Selon le degré d'atteinte physique et mentale, l'enfant devra être maintenu par des sangles au niveau du bassin et des genoux qui seront ainsi en rectitude, la verticalisation prenant le relais d'un travail de posture manuelle, poursuivant ainsi le travail d'étirement du kinésithérapeute. Rappel. Chez le nouveau-né normal, l'axe du col anatomique et celui de la diaphyse fémorale forment un angle dit d'inclinaison ou cervico-diaphysaire, très ouvert, atteignant 145 degrés. Chez le polyhandicapé, cet angle atteint facilement les 160 degrés, égal coxa valga. Ce problème évolue très souvent vers la subluxation de hanche par insuffisance de coudage du col fémoral et défaut de couverture de la tête fémorale, d'où l'importance de la verticalisation. Avec les enfants polyhandicapés, il faudra toujours distinguer l'âge réel de l'âge dit moteur. Ceci reste valable pour tous les NEM. En effet, il n'est pas rare, par exemple, d'avoir un enfant âgé de 5 ans dont le seul moyen de déplacement libre, égal, sans l'aide d'une tierce personne, reste le ramper. On dit alors qu'il est âgé de 5 ans avec un âge moteur estimé à 9-10 mois. Il est clair, dans ce cas précis, que la possibilité d'acquérir une marche normale est fortement compromise. C'est donc l'utilisation de ce rapport âge réel sur âge moteur qui aide à une certaine guidance de l'évolution motrice. En conclusion, s'il est vrai que l'utilisation des NEM reste l'un des outils majeurs de l'éducation neuromotrice, celle-ci demande à être adaptée en fonction de chaque prise en charge. Et il est bien évident qu'il n'existe pas de méthode miracle avec le polyhandicap. Pour illustrer cette réflexion, je reprendrai volontiers une phrase du docteur Boris Dolto. « Si tu hésites, oublie ce que tu sais et travaille. » Plus ce travail est précoce, plus l'enfant aura la chance d'obtenir un maximum d'acquisitions motrices et gestuelles. Pour clore cette première partie, il me semble nécessaire de redéfinir en quelques points ce qui peut, pour ne pas dire ce qui doit, être le soin kinésithérapique avec un enfant polyhandicapé. Une relation thérapeutique plus humaine. Toute la spécificité de cette prise en charge repose sur le fait que l'on ne doit pas s'orienter vers la recherche d'une normalité orthopédique, mais plutôt accompagner l'enfant vers une évolution qui lui est propre en contrôlant le mieux possible diverses malpositions. De plus, l'une des difficultés de ce genre de prise en charge est bien souvent l'absence de communication verbale. Le contact manuel devient alors un langage à part entière, car la manière d'aborder l'enfant et de le mobiliser sera perçue de façon très fine par ce dernier, qui pourra très bien répondre par un sourire ou, à l'opposé, manifester divers signes de mécontentement, mimique au niveau du visage, froncement des sourcils, rire paradoxal. Et c'est cette absence de langage, à la différence de nos patients normalement « constitués », entre guillemets, qui oblige à se remettre en question journellement quant à nos actes techniques, à notre professionnalisme. C'est parfois simplement faire un bout de chemin avec un enfant différent et aller là où même les techniques les plus élaborées ne peuvent plus rien. Avec ce type de pathologie, c'est avant tout le masseur kinésithérapeute qui devra s'adapter au potentiel physique et psychique de l'enfant, et non l'inverse. Il est plus judicieux d'utiliser les capacités réelles de l'enfant en essayant de les développer et de les entretenir, plutôt que de tendre vers un objectif parfois utopique au sens d'irréalisable. Je ne peux conclure ce chapitre sans quelques mots sur le problème de l'analyse de la douleur. Il reste très difficile à résoudre, même si l'échelle d'hétéro-évaluation de l'équipe du docteur Collignon, de l'hôpital San Salvador, est un outil remarquable. L'expérience professionnelle et le bon sens entrent, sans doute pour une bonne part, dans l'évaluation d'une douleur potentielle. Comme j'ai pu le souligner au début de cette réflexion, c'est en améliorant sa capacité et sa qualité d'observation, d'écoute et d'attention auprès de l'enfant, respect du temps de prise en charge, prise de notes, discussion avec d'autres soignants, que le masseur kinésithérapeute détecte le signal douloureux. Il peut bien sûr être utile d'utiliser une échelle comportementale pour quantifier ce signal, mais sa découverte première demeure souvent le résultat d'une parfaite entente enfant-praticien.